Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline pour le second voyage à travers les années 5, 1985 et 1975, en l'occurrence aujourd'hui, avec un bref petit détour par 1995 et 2025. L'occasion de revenir sur une année décisive de troubles et de renversements en Amérique du Sud, les coulisses du grand élan humanitaire que fut la création des Restos du Cœur, le lancement d'une émission culte et dérangeante de la télé belge, Striptease, de révolution informatique et plusieurs exemples étonnants d'instrumentalisation politique du concours Eurovision de la chanson. Tiens, tiens. 1985, année, je le disais, de tous les basculements politiques en Amérique du Sud. À commencer par le Brésil qui, le 15 janvier 85, retrouve la démocratie après 20 ans de dictature militaire. Et ce, grâce à de puissantes manifestations populaires qui gagneront toutes les grandes villes du pays en 1983 et 1984 pour finalement réunir à Sao Paulo 1 500 000 manifestants le 16 avril 1984. Rassemblement considéré comme le plus grand acte démocratique de l'histoire du Brésil, au cours duquel Lula, qui est alors l'un des acteurs principaux de ce mouvement, mais aussi Ulysses Guimarães et Leonel Brizola, prendront la parole. Avec une exigence simple, le retour des élections directes pour la présidence de la République, c'est-à-dire la possibilité pour tous les citoyens d'élire directement leur président ou présidente, sans laisser cette fonction au Congrès qui réunit le Sénat et la Chambre, un droit dont les Brésiliens ont été privés depuis 20 ans.
Sim, as eleições diretas, já!
Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.
Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já?
Si le principe de l'élection directe sera rejeté, toutes ces manifestations et ce climax du 16 avril 1984 pousseront néanmoins le général João Figueiredo, incarnation de la dictature militaire, à rendre le pouvoir. Des élections seront dès lors organisées qui verront le 15 janvier 1985 un civil, Tancredo Neves, largement élu à la présidence de la République par le Congrès donc. Mais malheureusement, son mandat sera de très courte durée. Non pour des raisons politiques d'ailleurs, comme on va le comprendre grâce au commentaire d'Hugues Lepeche dans ce sujet du JT de la RTBF, diffusé quelques semaines plus tard, le 22 avril 1985.
Tancredo de Almeida Neves, deputado João Cunha vai votar. Eleito presidente da
C'était le 15 janvier dernier. Tancredo Neves devenait le premier président civil du Brésil depuis 21 ans. Explosion de joie au Parlement et dans la rue, la fête du retour à la démocratie. Mais Tancredo Neves n'aura pas le temps d'exercer réellement le pouvoir. Le 26 mars, il est hospitalisé. Il ne survivra pas à ses opérations successives. Modéré, conciliateur, rusé. Libéral, conservateur, incorruptible. Six mots pour qualifier ce président de 75 ans qui avait commencé sa carrière politique en 1933 et que les Brésiliens appelaient familièrement Tancredo. On disait de lui que son sens du compromis ne l'empêchait pas d'être l'homme des fidélités. Fidélité au président des réformes, João Goulart, renversé en 1964 par les militaires et dont il fut le premier ministre. Fidélité à l'opposition à ce régime militaire qu'il refusa toujours de rallier. Un régime qu'il dénonça constamment avant de l'amadouer, puis de négocier avec lui pour se présenter à la présidence. Cet intellectuel, fils de commerçant catholique, était un homme de consensus. Aux militaires, il offrait la garantie de son anticommunisme. Pour le patronat, il défendait la libre entreprise. À la gauche, il promettait la justice sociale. Rassemblement de forces sociales et politiques hétéroclites qui lui permit d'accéder à la présidence, mais dont on ne saura jamais s'il pouvait résister à l'épreuve du pouvoir. Tancredo est mort et les Brésiliens espèrent aujourd'hui que le retour à la démocratie aura la vie plus longue que l'espoir de son éphémère présidence.
Une démocratie qui, malgré quelques récents coups de chaud, a fêté il y a peu ses 40 ans. Mais ce même 22 avril 1985, alors que le Brésil pleure son furtif président, s'ouvre en Argentine, sous la présidence de Ricardo Alfonsín, ce qu'on appellera le procès du siècle, dont, dans ce même JT de la RTBF, Christian Dupont, cette fois, nous resitue le contexte.
Ils sont 9. Les plus connus sont les 3 anciens présidents, Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Gualteri et le tortionnaire Massera. Ensemble, ils ont dirigé l'Argentine depuis le coup d'État de 1976 jusqu'à la défaite des Malouines. Ensemble, ils ont organisé la sale guerre, celle contre ce qu'ils appelaient la subversion. Une guerre qui, selon les estimations, a fait entre 10 et 30 000 victimes. Une guerre où les militaires ont usé de tous les moyens. Emprisonnement arbitraire, enlèvement, torture, exécution sommaire. C'est de tout cela que les accusés d'aujourd'hui devront répondre, sous la pression populaire. Rappelez-vous, sous la dictature déjà, les maires de Buenos Aires, les folles de la place de Mai, comme on les appelait, défilaient tous les jeudis pour exiger des nouvelles de leurs enfants disparus. Et dès son élection, Raoul Alfonsín avait promis que justice serait faite. Aujourd'hui pourtant, certains estiment que 9 accusés, c'est peu. On ne devrait pas seulement châtier les responsables, mais aussi les exécutants. Mais là, Alfonsín est coincé. Il ne peut, vu la puissance des militaires, risquer de mécontenter l'ensemble des forces armées. C'est que la démocratie argentine est encore fragile. Elle est minée par les difficultés économiques, une inflation de près de 1000% par an, menacée par l'austérité qu'exige le FMI. Le procès d'aujourd'hui s'ouvre donc dans une situation difficile. Il reste pourtant le symbole de la démocratie retrouvée.
Ce procès se terminera le 14 août par, entre autres verdicts, la condamnation du général Videla à la réclusion à perpétuité. Amnistié en 1989, puis bénéficiant d'une assignation à résidence, mais rattrapé par la justice, c'est finalement bien derrière les barreaux du pénitencier de Marcos Paz que mourra Videla le 17 mai 2013, à l'âge de 87 ans. De démocratie, il n'est en revanche toujours pas question en 1985 au Chili où, le 30 mars, 3 intellectuels communistes sont sauvagement assassinés. La junte militaire dirigée par le sanguinaire dictateur Augusto Pinochet tentera de faire passer ses meurtres pour des règlements de compte entre marxistes. Mais le scandale de ce caso degollados, l'affaire des égorgés, poussera finalement à la démission le général César Mendoza quelques mois plus tard. C'est en décembre 1985 que la France et la Belgique vont connaître ce qu'on peut appeler une révolution humanitaire, avec la création par l'humoriste Coluche des Restaurants du Cœur, on ne disait pas encore Resto du Cœur, une association caritative destinée à distribuer des paniers repas aux chômeurs en fin de droit et aux sans-logis. Cela dit, La Mèche, c'est un autre artiste, Daniel Balavoine, qui l'avait allumé 2 ans plus tôt. Au cours d'un des billets d'humeur quotidiens qu'il tient pendant 3 semaines en octobre 1983 sur une petite radio parisienne, Balavoine s'insurge contre les 2500 tonnes de lait en poudre stockées et bloquées aux Pays-Bas alors que des bébés meurent de faim au Brésil et interpelle le gouvernement et la grande distribution en leur suggérant de mettre sur pied une banque alimentaire mondiale. Ce à quoi, lis-je, on lui répondra en substance « Mêle-toi de ce qui te regarde et contente-toi de chanter. » Mais l'idée est tombée dans l'oreille de Coluche. Très fort, paraît-il, pour les piquer, les idées de blagues, de vannes. Les idées appartiennent à ceux qui s'en servent, aura-t-il coutume de répondre. Mais en l'occurrence, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir récupéré, puis adapté, celle-ci. Et Balavoine sera d'ailleurs le parrain de la première campagne des Restos du Cœur. Cela dit, un autre facteur va nourrir cette initiative. Les 3 millions de francs français d'impôts dont Coluche a dû s'acquitter quelques mois plus tôt. L'humoriste lançant alors à son secrétaire « Tu te rends compte, avec tout le pognon que je donne, si tous les mecs qui ont du blé comme moi s'y mettaient, on pourrait régler le problème de la faim en France. » Et quand sa cuisinière, Anita, lui apprend qu'un repas revient à 15 francs, Coluche fait le calcul. Avec l'argent versé au fisc, il pourrait en offrir 200 000 de repas. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres, ce sont les lettres que Coluche reçoit alors qu'il présente une émission quotidienne sur Europe 1 en compagnie de l'animatrice Maryse, épouse de Philippe Gildas, directeur des programmes de la station à l'époque. Et pour bien resituer le contexte, il faut se souvenir que toujours en 1985, après le Band Aid britannique et USA for Africa, des chanteurs et artistes français, dont Coluche, ont enregistré un disque Éthiopie, dont les bénéfices ont été versés à Médecins Sans Frontières. Maintenant que ceci est bien en tête, écoutons Coluche le 25 septembre 1985 sur Europe 1, puis Philippe et Maryse Gildas bien plus tard, se rappelant ce fameux appel.
J'ai beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient: vous êtes bien gentil, vous chantez pour Médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs? Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà.
Il est dans un petit studio qui est deux étages en dessous et moi je suis dans le bureau du directeur, l'autre côté, là sur la rue.
Bah,
et,
directeur que vous êtes, il faut le préciser.
Et j'entends donc ça. Alors, je ne suis pas vraiment étonné parce que ça faisait des jours et des jours que les auditeurs le titillaient en lui disant c'est très bien d'appeler à aider et à donner pour les pauvres petits Éthiopiens qui meurent de faim. Mais il y a en France aussi plein de gens qui meurent de faim. Et donc, je sentais bien qu'ils commençaient à parler, à s'intéresser. Ils savaient très bien répondre aux auditeurs.
C'était quelques mois, en effet, Philippe, après l'action SOS Éthiopie, avec cette chanson collective d'artistes pour lutter contre la famine en Éthiopie. Il vous en parlait, Maryse, vous qui travaillez avec lui. Vous sentez déjà cette proximité, cette envie d'être utile au-delà du clown et intelligent qu'il était.
Il en parlait dans le bureau depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Ça germait dans son esprit très fort. Ça a bien poussé. Mais j'ai dit, mais il faudrait en parler à Philippe quand même. Tu peux pas... Ma poule, tu me laisses faire, je m'occupe de tout. Et c'est vrai qu'il s'est occupé de tout, A à Z.
Il est monté, après avoir fait l'annonce, hein, comme ça, il est monté en disant, t'as entendu ma poule? Alors je dis, oui, j'ai entendu. Et t'occupes de rien, ma poule, je m'occupe de tout. Et il s'est occupé de tout, jusqu'à aller chez le président de la République.
François Mitterrand, en l'occurrence, qui saluera l'initiative, laquelle sera soutenue par son ministre de l'Agriculture, Henri Nallet. Et ce sont des étudiants parisiens d'école de commerce, fédérés par un de leurs camarades, Alexandre Lederman, 20 ans, fils de l'agent de Coluche, qui s'activeront pour mettre sur pied les premiers centres régionaux de distribution, ainsi que leur approvisionnement, de façon totalement bénévole, bien sûr. Une idée et un principe de fonctionnement qui trouveront un écho immédiat en Belgique, ce que nous explique le 29 novembre 1985 Jacqueline Liesse et un étudiant de l'école Solvay dans ce JT de l'RTBF.
Ici, comme à Paris, ce sont des étudiants qui se chargent de toute la mise en route. Démarrage prévu le 21 décembre prochain.
Les trois personnes qui ont lancé l'opération en Belgique ont été voir Coluche en France et ont obtenu son approbation pour lancer l'opération en Belgique. Depuis lors, nous n'avons pas de contact direct avec Coluche. Par contre, il nous a promis que si l'opération fonctionnait bien, s'il était lancé sur de bonnes bases, il serait tout à fait possible qu'il vienne faire une conférence de presse pour nous présenter ici en Belgique.
Et en Belgique comme en France, lancement officiel des Restaurants du Cœur le 21 décembre 1985, événement relayé par ce reportage du journal télévisé de France 2, Antenne 2 à l'époque, présenté par Bernard Rapp.
Salut les enfoirés. C'est l'une des expressions favorites de Coluche. Mais le clown s'est aussi montré de bonne manière à l'occasion. Coluche est un homme généreux. Il est à l'origine de ce que l'on appelle les restaurants du cœur, c'est-à-dire des centres de distribution de paniers repas pour les chômeurs en fin de droit. Ce n'est pas une opération publicitaire, c'est tout simplement un geste. Coup d'envoi aujourd'hui dans 17 villes avec un objectif, fournir 50 000 repas quotidiens. Le reportage d'Agnès Poirier et de Roger Motte.
Ça va les garçons?
Un peu froid, mais...
C'est quoi ta télé?
Restaurant du cœur, une première. Pas une minute à perdre. Dans quelques heures, 600 repas gratuits vont être distribués à Gennevilliers, au nord de Paris, sous un chapiteau. Au menu, friand, steak haché, pommes de terre, gâteau, orangeade. Cela grâce à 20 bénévoles, membres d'une association d'aide aux toxicomanes. Ils ont, en un temps record, trouvé un chapiteau, une municipalité accueillante et des marchés, des entreprises voisines.
Tous ceux qui ont faim, il faut qu'ils mangent. C'est ça ce qui m'a séduit dans l'idée de Coluche. Avec cette énorme publicité, j'espère que ça va faire bouger un peu les Français qui sont quelquefois un peu égoïstes. Mais dès qu'on leur demande quelque chose, ça marche formidablement.
Les jeunes étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris mettent aussi la main à la pâte. Les managers du cœur, ce sont eux. Enthousiasmés par le projet de Coluche, ils ont en quelques mois créé une véritable entreprise.
La mise en place a été très difficile parce qu'il a fallu contacter les sociétés agroalimentaires, les banques, il a fallu former les équipes de bénévoles, il a fallu se déplacer dans toute la France.
Mais rien n'est encore joué. Il faut maintenant tenir 3 mois. Des excédents de nourriture sont disponibles, mais il faut pouvoir les acheminer pour les donner à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, à Gennevilliers, les personnes démunies, un peu perdues au milieu des journalistes, ont fait un tabac au restaurant du cœur.
Ça va nous aider beaucoup. Parce que vraiment, vous savez, en ce moment, il y en a besoin.
Maintenant, si tu veux, on s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, qui ont, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que, bon, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné.
Au cours de la première campagne de ces Restos du Cœur, 5000 bénévoles distribueront plus de 8 millions de colis alimentaires en France, chiffre nettement supérieur aux espoirs les plus déraisonnables. En Belgique, c'est plus de 6000 repas par jour qui seront distribués à la fin de l'hiver 1986. Et ce n'est là que le début d'une incroyable machine humanitaire qui, près de 40 ans plus tard, en 2024, aura distribué rien qu'en France 160 millions de repas. Un succès et une pérennité que ne connaîtra jamais Coluche, puisqu'on le sait, il mourra le 19 juin 1986 à l'âge de 41 ans, tué sur le coup lors de la collision de sa moto contre un camion sur une départementale de la Côte d'Azur. En 1985, toujours, un vent nouveau souffle sur la télé belge avec le lancement d'un magazine de reportage iconoclaste et polémique qui va d'emblée connaître un incroyable succès, Striptease. L'émission qui, pendant 17 ans, va déshabiller la société belge à raison de 4 reportages d'une douzaine de minutes délivrés chaque mois, emballés par un morceau malien interprété par la fanfare bruxelloise Combo Belge et la voix de la regrettée Martine Matagne.
Papa, j'en avais marre d'être un apprenti martyr. Maintenant, je gagne ma vie. Comment ? Ben, je suis gigolo. Je fais le trottoir, quoi. Enchaîné, égorgé, déplumé, dépecé, tel est le triste sort de ces gallinacés. Michael Jackson continue de faire des émules. Deux et frères se démènent pour être confondus aujourd'hui. Striptease habite ces deux jeunes Pakistanais. La culture belge, c'est haute mode, des looks superbes, de jolies filles et des défilés hors du commun.
Créateur de Striptease, Marco Lamench et Jean Libon avaient bossé ensemble au sein d'un magazine d'enquête et de reportage de la RTBF, nettement plus classique bien que qualitatif, à suivre, et dont ils pensaient avoir fait le tour, comme Jean Libon me l'a rappelé avec son franc-parler, il y a quelque temps.
C'est un truc qui est sorti par frustration. Hein. C'était de frustration. Moi, je m'emmerdais hein, à faire des interviews de gens dont je savais ce qu'ils allaient me répondre avant que je lui pose la question, quoi. J'en pouvais plus. Quand vous faites ça pendant des années, vous n'en pouvez. J'avais découvert le monde, ça va, c'est bon. Il fallait faire autre chose, quoi. Et donc, autre chose, c'était justement supprimer tous les tics, tous les bazars qui nous emmerdent à faire et qu'on n'écoute pas. Donc, c'était vraiment un choix au départ. Et dans les sujets des deux numéros pilotes qu'on a fait, c'était un choix sans musique, sans interview, sans commentaire. Les épouvantables commentaires, quoi. Arrêtons, quoi. Arrêtons. On sortait dans la rue, les histoires, elles étaient partout. Hein.
Lancé en janvier 1985, Striptease s'inscrit en réalité dans l'héritage d'une autre émission de reportage qui avait déjà renouvelé le genre à la RTBF entre 1968 et 1978, Fait divers, déjà évoqué dans Radio Caroline, pour lequel avait travaillé comme assistant Jean Liban. Pour éclairer l'impact de Striptease dès ses débuts, son complice Marco Lamensch rappellera, je cite, « La première année, nous avons reçu des centaines de lettres de réactions de téléspectateurs. L'une d'entre elles m'a particulièrement marqué, celle d'un grand-père qui disait « Nous regardons Striptease en famille avec mes enfants et mes petits-enfants et quand c'est fini, on éteint la télé et on s'engueule parce que chacun a son interprétation de ce qu'il vient de voir et la télé nous fait discuter au lieu de nous endormir. » C'est justement, pointe Lamensch, ce à quoi nous aspirions. Cela dit, dans cette même interview accordée au magazine français Télérama, puisque Striptease s'exportera en France, il confesse « Si j'ai une autocritique à formuler, c'est d'avoir parfois manqué d'un peu de vigilance. Nous avons suivi dans certains films des personnages qui relevaient plus de la psychiatrie, de la névrose individuelle que du fait sociologique du symptôme collectif. C'est arrivé quelquefois et ce n'est pas la chose dont nous sommes le plus fiers. Mais on a quand même laissé beaucoup de choses au panier qu'on ne voulait pas montrer pour ne pas humilier les gens. » Et d'ajouter, nous avons toujours revendiqué notre subjectivité qui s'exerce aussi dans ce que l'on choisit de filmer ou non et lors du montage. Mais nous sommes dans toujours l'un des forcés premiers numéros honnête, du magazine Striptease en 1985 que la caméra André D'Artevel partait à la rencontre de Philippe, produisant un jeune Namurois de 19 ans qui, après avoir arrêté ses études pour devenir commis de cuisine sous contrat d'apprentissage, puis enchaîner les déboires professionnels, n'a trouvé d'autre échappatoire que de se prostituer.
Tu vas soit à la gare centrale ou à la place. Puis à partir d'une certaine heure, tous les clients tournent en voiture. Et si tu es choisi parmi tous les gigolos, parce que je ne suis pas le seul, bon, si tu es choisi par... Tu pars avec, quoi. Tu vas soit à l'hôtel, soit chez lui, soit dans l'auto, soit dans un parking, ça dépend, quoi.
Tu vas jusqu'où avec tes clients?
Ça se limite à la masturbation.
La branlette.
Voilà, c'est ça. Vulgairement parlé.
Salut. Tu cherches quelqu'un? Non.
Tu plais à quel genre d'homme?
Bon, c'est un style très masculin. Enfin, j'ai eu la chance de tomber sur des gars qui étaient plus ou moins beaux. Bon, je n'ai jamais eu de vieux, quoi, parce que je déteste. Je déteste. Ils sont trop exigeants, vicieux. Bon, je déteste ce genre de type, quoi. Tu sais, bon, ils passent dans la rue, ils te regardent, ils te lorgnent pendant des heures. Et puis après, bon, ils vont dans une petite ruelle, ils vont se masturber à la place de te prendre, quoi. Bon, voilà. Mais moi, je trouve ça vulgaire. C'est honteux, quoi.
Qu'est-ce que tu demandes comme tarif à tes clients?
Ça dépend. C'est des fois à la tête du client, tu sais. Mmh. Or, bien sûr, je ne descends pas en dessous de 1500 francs. C'est pas possible, parce que quand tu penses les heures que tu attends là, pour rien...
Mmh. Et le maximum, c'est combien?
Pour ma classe à moi, 5. 5 000.
Et qu'est-ce que tu fais pour ce prix-là?
Bon, ben, je fais ce que le client me demande.
Tu fais combien de clients par jour?
Ça dépend. Au grand maximum, 4. Il y a des fois, je te dis, je fais absolument rien du tout. J'attends comme une vieille prune. Mmh. Des fois, j'attends des heures et des heures et il n'y a rien du tout, alors je rentre.
Il n'y a rien du tout, tu veux dire que tu n'es pas choisi?
Je ne suis pas choisi, voilà. Ouais.
Ça t'arrange, 2000 francs?
Jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à quelle heure, ça dépend.
Demain matin?
Parce que demain matin, parce qu'il faut passer une nuit pour 2000 francs.
C'est la première fois que je viens.
C'est la toute première fois. Es-tu homosexuel? Pas vraiment.
Oui.
Oui.
Mais disons que je préfère les plus jeunes.
Comment ça, les plus jeunes?
Les petits.
Hein?
Les petits.
Les petits. Ça veut dire?
15-16 ans.
Hélas, je n'ai pas 15-16 ans.
Oui.
Papa, je te lance un dernier appel en espérant te revoir pour te parler un peu plus de moi, de ma vie actuelle et de ce que je fais. La situation telle que ça s'est passé à la maison, bon, le divorce entre toi et maman, moi, mon échec professionnel, ça m'a beaucoup bouleversé, ça ne va pas. Je me suis retrouvée sur le trottoir à faire du spectacle travesti, à me prostituer. Bon, ça, c'était ma façon, et c'est ma façon de gagner ma vie pour l'instant, vu que je n'ai rien. Et tu devrais un peu réaliser que je suis là, que j'existe, et que je peux te donner énormément d'amour, même si toi, tu ne m'en as pas donné.
Extrait donc d'un striptease diffusé le 15 mars 1985 et signé André Dartevelle. Le 17 mai 2025, 69e concours Eurovision de la chanson. Un événement glam variété pop qui, derrière sa gaieté, ses sentiments et sa légèreté, voire sa lourdeur selon certains, a plus d'une fois été instrumentalisé à des fins politiques au cours des décennies. Par exemple, en 1975, alors que la Turquie fait ses débuts à l'Eurovision, la Grèce annule sa venue pour protester contre cette participation turque. Et pour cause, les deux pays sont en plein conflit sur la question chypriote et l'armée turque vient d'envahir Chypre. En 1975, toujours, le Portugal est représenté par la chanson « Madrugada » qui décrit la joie ressentie au Portugal lors de la révolution des œillets qui, un an plus tôt, a mis fin pacifiquement à la dictature de Salazar. L'interprète de cette chanson, Duarte Mendes, qui a participé à cette révolution, envisage d'ailleurs de monter sur scène avec son uniforme militaire et son fils. Il sera dissuadé, non sans peine, par les responsables du concours.
Mais l'histoire entre l'Eurovision et la révolution portugaise a en réalité débuté l'année précédente. Car il faut savoir que la chanson qui a représenté le Portugal le 6 avril 1974 et « Depois de Adeus », désolé pour l'accent, sera l'une des deux compositions utilisées le 24 avril comme signal de déclenchement de la révolution des œillets. Par parenthèse, et à propos d'œillets, incroyable hasard ou étrange préscience, que chante le représentant belge concours Eurovision Jacques Hustin cette même année 74, trois semaines donc avant la révolution, « Fleur de liberté ». Cette étonnante parenthèse refermée, revenons à la chanson portugaise « Et depois de Adeus ». Si elle n'a décroché qu'une 14e place sur 17 lors du concours Eurovision, remporté évidemment par le Waterloo d'Abba, elle est alors très populaire au Portugal et sera diffusée par une radio de Lisbonne à 22h55 le 24 avril pour indiquer aux troupes révolutionnaires qui ont eu connaissance de ce code de se préparer. Si cette chanson romantique a été choisie, c'est justement parce que, n'ayant aucun contenu politique, elle ne risquait pas de susciter des soupçons du côté des autorités et que, dès lors, les opérations auraient pu être provisoirement annulées sans que les dirigeants du Portugal se rendent compte de rien. Ce qui n'aurait évidemment pas été le cas s'il s'était agi d'une chanson révolutionnaire. Quant au second signal, enjoignant cette fois les militaires rebelles à quitter la caserne pour amorcer leur coup d'État, ce sera la diffusion, moins de 2 heures plus tard, à minuit 20, le 25 avril, sur Radio Renascença de Grandola Vila Morena, chanson politique, elle,
entonné par Zeca Alfonso. Autre instrumentalisation de l'Eurovision. Quand, en 1975, l'Espagne participe à l'Eurovision, elle est, elle, toujours sous le joug d'un dictateur, le général Franco. Mais plus pour longtemps, Franco décédant le 20 novembre 1975. Franco, qui, 8 ans plus tôt, en 1968, aurait truqué le vote du concours Eurovision de la chanson pour remporter cet événement, l'organiser dans son pays l'année suivante et donc donner à son régime une image normale, détendue, festive, du soft power en quelque sorte. Explication. En 1968, c'est le chanteur Juan Manuel Serra qui choisit pour interpréter La La La, chanson au refrain simplissime s'il en est. Sauf qu'au dernier moment, Serra annonce qu'il interprétera la chanson sur scène de l'Eurovision en catalan. Stupéfaction au sommet du pouvoir, l'usage du catalan, langue régionale, étant évidemment réprimé dans l'Espagne franquiste. Seul le castillan, la langue nationale, est en droit de cité. Juan Manuel Serra est dès lors débarqué et Maciel, une chanteuse espagnole de 20 ans, très populaire, est rapatriée en catastrophe du Mexique où elle est en tournée. C'est donc elle qui interprétera La La La, en castillan bien sûr, sur la scène du Royal Albert.
Face à Maciel, 16 concurrents parmi lesquels
britannique Cliff Richard, ex-leader des Shadows, Congratulations, par grand favori. Vers la fin du vote, alors que seuls 2 jurys doivent encore distribuer leurs points, Cliff Richard est loin devant. Sauf que, après le vote de l'Allemagne et de la Yougoslavie, qui semble beaucoup apprécié La 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 et peu goûté Congratulations, c'est l'Espagnol qui remporte l'Eurovision avec 1 point d'écart. Le lendemain, la presse britannique se répand en protestation contre le vote et la défaite du Royaume-Uni. Quant à Maciel, elle sera accueillie telle une héroïne nationale dans son pays. Mais 40 ans plus tard, en 2008, un ancien présentateur de la télévision publique espagnole affirmera que le résultat du concours Eurovision avait été manipulé par Franco et son gouvernement, qui avait envoyé, selon lui, des émissaires dans les autres pays participants pour leur promettre des achats de programmes de leur télévision en échange de votes pour Maciel. Interrogé par l'agence Reuters en 2008, l'un des responsables de l'Eurovision, sceptique, répondra « Franco était-il à ce point attaché à une victoire de son pays ? Il ne s'agit tout de même pas de l'OTAN ou de l'Union européenne ou d'un sujet politiquement influent. C'était après tout qu'un concours de chansonnettes. » Avant d'ajouter, cela dit, je n'exclus pas qu'il y ait un parfum de vérité dans tout cela. Quoi qu'il en soit, la défaite sur le fil de Cliff Richard à l'Eurovision n'empêchera pas ses Congratulations de connaître un immense succès en Europe plus puissant que celui de Maciel. Pour l'anecdote, Cliff Richard se représentera en 1973 à l'Eurovision, se classant cette fois 3e derrière l'Espagne. En 1979, enfin, sachez que les années 5 seront également fastes pour les révolutions informatiques. En 1975, le jeune Steve Wozniak, accompagné de son ami Steve Jobs, conçoit dans un garage l'un des tout premiers micro-ordinateurs que les deux hommes baptisent Apple One. Pendant ce temps, cette même année 75, 2 étudiants nommés Bill Gates et Paul Allen fondent la société Microsoft. 10 ans plus tard, en 1985, à l'issue d'un conflit de pouvoir au sommet d'Apple, Steve Jobs se voit retirer toute responsabilité au sein de la compagnie et confier une réflexion planétaire, Global Thinking, dans un bureau éloigné du centre décisionnel d'Apple, nommé ironiquement Siberia, avant que Jobs ne quitte Apple pour fonder sa propre compagnie, Next. Et c'est d'ailleurs sur un ordinateur Next que sera inventé le World Wide Web par Tim Berners-Lee à la fin des années 80. Quant au concurrent Microsoft de Bill Gates, il lancera en 1985 Windows 1.0, première version d'un système d'exploitation qui, 10 ans plus tard, en 95, démocratisera l'informatique avec son fameux Windows 95. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, connaître, partagez-le et étoilez. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.